Et voilà, le décor est planté. Merci bien, Zili. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Dakar au Sénégal, Amadou Ould Abdallah, président du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel Sahara, également ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Quant à notre deuxième participant, il séjourne en ce moment à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit de Dani Aïda, directeur pour l'Afrique centrale au NDI, le National Democratic Institute. Et à mes côtés sur ce plateau, ici à Washington, Henri Désiré Nzouzi, analyste politique et consultant en relations internationales, de passage actuellement aux États-Unis. Il est donc venu me rejoindre dans le studio 52 de la VOA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les résultats définitifs de la présidentielle tchadienne étaient attendus ce jeudi à 14h, temps universel, c'est-à-dire une semaine en avance, alors que les chiffres provisoires ont été publiés par la commission électorale 12 jours avant la date initialement prévue dans le calendrier. Dani Aïda, avant de valider cette victoire de Mahamat Déby, le Conseil constitutionnel a-t-il eu le temps d'examiner les recours déposés par Succès Masra, arrivé deuxième, et par le candidat Yassine Abderrahman Sakin, qui lui conteste sa 8e place? Cette rapidité affichée par ces deux organes est-elle suspecte?
Non, je crois qu'il y a une certaine célérité, on a constaté aussi la proclamation des résultats par l'ANGE, l'organe de gestion des élections, et que dans la séance prochaine de la confirmation ou non des résultats par le Conseil constitutionnel. Nous pouvons nous référer aux réactions des acteurs politiques et des observateurs, y compris la société civile qui n'a pas été autorisée à observer les élections. Au regard de ces références, je crois qu'il y a lieu de douter, puisqu'il y a des recours et on voit dans quel sens le Conseil va se prononcer.
Des médias tchadiens ont évoqué des morts et de nombreux blessés par des tirs de joie des militaires à l'annonce des résultats, mais le gouvernement a refusé d'en livrer le nombre et interdit aux hôpitaux de le faire, invoquant le respect du secret médical. La capitale Djamena est toujours sous étroite surveillance de l'armée, alors que l'Union européenne a fait part lundi dernier de son inquiétude à propos d'éventuelles violences post-électorales. Amadou, faut-il en effet craindre une crise après ce scrutin? Est-il urgent de tirer au clair ces allégations de fraude électorale?
Merci beaucoup. Personnellement, je pense que l'élection s'est déroulée comme dans un certain nombre de pays africains, à la seule différence que les principaux candidats travaillaient ensemble avant. Le principal opposant est l'actuel Premier ministre, désigné pas après une élection mais par consensus, et le second opposant était son prédécesseur, Premier ministre et actuellement président d'une grande institution de l'État. Donc l'élection elle-même de l'extérieur me donne l'impression d'avoir été organisée par consensus, et j'espère dans cet esprit que pour l'intérêt du Tchad et la stabilité, un Tchad qui a toujours connu de violences, que cette élection organisé par trois personnalités qui travaillent ensemble, qui ont travaillé ensemble, contenera à donner les résultats qu'il faut et qui seront acceptés par la population qui est très sensible à la situation, le contexte, violence en Libye, violence au Soudan, violence dans la région. Donc la priorité actuellement, après cette élection, est plus de stabilité pour les nationaux du pays et éventuellement plus de travail.
Absolument. L'UE a également déploré la mise à l'écart de 2900 observateurs de la société civile à la veille du vote. Ce faisant, ajoute l'UE, la commission électorale a empêché leur contribution à la transparence du processus électoral, financé à hauteur de 3,8 millions d'euros avec des fonds européens. Henri, est-ce là un autre élément qui apporte de l'eau au moulin de l'opposition et de nombre d'ONG qui fustigent un scrutin ni crédible, ni libre, ni démocratique?
Je vais vous dire, c'est de bonne guerre, en fait. L'opposition, la société civile, est dans son rôle. Il n'y a rien de surprenant. Cela étant, lorsque vous évoquez le fait qu'une certaine communauté internationale craint, en tout cas une partie, des violences post-électorales, ça veut dire, par définition, qu'il y a une autre partie qui n'y croit pas. Vous savez, depuis que les élections ont eu lieu et que les résultats provisoires ont été communiqués, le roi Mohamed VI a félicité le président élu, Poutine, Viktor Orban, le président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le président d'exercice de l'Union africaine. On est là effectivement dans une forme de reconnaissance et on essaye justement de relativiser, comme vient de le dire d'ailleurs mon prédécesseur, ce sont des acteurs politiques qui ont travaillé ensemble. Et en dépit du fait que vous avez le troisième qui est arrivé, en l'occurrence Albert Païmi Padaké, qui a introduit un recours parce qu'en fait, il n'y a qu'une centaine de milliers de voix entre lui et succès Masra. C'est l'affaire dans l'affaire. Donc on voit très bien que maintenant, nous sommes beaucoup plus dans une guerre de positionnement pour savoir qui pourrait éventuellement hériter de la primature et surtout comment éviter que le 20 octobre 2022 ne se renouvelle, puisque vous le savez, il y a eu plus de 300 morts à cette occasion-là.
Alors, l'opposition violemment réprimée et dont les candidats jugés les plus dangereux pour Mahamat Déby ont été écartés avait appelé à boycotter le scrutin destiné, selon elle, à perpétuer une dynastie Déby de 34 ans. Yaya Diallo, cousin et plus farouche rival de Déby pour la présidentielle, a été tué fin février par des militaires, assassiné d'une balle à bout portant dans la tête, d'après son parti. Dany, quelle va être la marge de manœuvre des partis d'opposition sous Déby fils? Quelle perspective pour une opposition politique crédible dans un tel contexte de répression parfois meurtrière?
Il y a beaucoup de contradictions au sein de l'opposition tchadienne. Elle n'est pas porteuse d'un projet commun de changement. Il y a un cafouage et au cours de la transition de 3 ans, puis 3 opérations. D'aller donc à la primature. Donc l'ancien système incarné aujourd'hui par Mahamat Déby, je crois, neutralise son opposition et s'est servi de ce processus politique électoral. Je ne crois pas que ce processus soit de nature vraiment à rassurer les Tchadiens dans leur diversité. Vous voyez, déjà le dialogue national ne s'est pas donné dans les bonnes conditions. C'est vrai que le président et son premier ministre se sont affrontés dans cette élection présidentielle, mais pas dans une certaine cohésion. Il y a beaucoup de divergences qui ne faut pas perdre de vue. Donc je crois que les jours à venir n'ont pas d'une cohésion au sein de la classe politique tchadienne, et on est à la fin d'une transition qui portait beaucoup d'intentions. Une grande partie de l'opinion tchadienne, vous avez des mouvements qui ne croyaient pas à cette élection. J'ai l'impression que le cafouillage autour de ces résultats donnait raison à ceux qui n'ont pas cru à cette élection. Eux, cela ne peut corroborer, maintient un système qui a duré depuis plus de 30 ans et qui n'a pas donné assez de liberté et de développement aux Tchadiens.
Amédou, brièvement, en quoi la gestion des résultats du vote par une commission électorale et un conseil constitutionnel, tous deux nommés par Mahamat Déby, pose-t-elle un problème de légitimité?
Écoutez, moi je mets tout dans le contexte régional. Qu'on le veuille ou non, la plupart des élections dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, le Conseil constitutionnel a une tendance à les approuver assez rapidement, que ce soit au Sénégal ou que ce soit ailleurs. Mais le point, pour moi, le plus important dans cette élection du Tchad, un pays quand même qui est différent à cause d'une tradition de l'utilisation des armes et des violences armées, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que les 3 candidats étaient des opposants. Ils ont travaillé ensemble, ils ont organisé cette élection ensemble. Le premier ministre, qui est un opposant connu, a accepté d'être premier ministre et d'être candidat. Son prédécesseur, la même chose, alors qu'il occupe une fonction nommée où il est nommé par l'actuel président. Donc je me demande si tout ça n'est pas consensuel entre les 3 leaders. Ouais. Et il faut aider les Tchadiens donc à voir comment le mettre en œuvre. Et
absolument, nous allons revenir sur cet aspect dans un petit moment. Alors pour revenir sur succès Masra, nous nous souvenons du rôle de médiateur joué par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dans le cadre de l'accord paraffé en octobre dernier pour le retour de succès Masra au Tchad après 1 an d'exil contraint. Mais une partie de l'opposition tchadienne le considère comme un traître, candidat pour donner un vernis démocratique au scrutin du 6 mai. Justement, Henri, Comment expliquer la position contradictoire de Masra, à la fois Premier ministre et plus proche rival du Déby?
Tout simplement parce que l'opposition dite classique n'a jamais digéré le fait que Masra, qui je rappelle, a créé les transformateurs en 2018, donc c'est quelqu'un de relativement jeune dans le paysage politique tchadien, avec une tradition de cohabitation, de collaboration, et c'est vrai que cet accord qui date du 31 octobre et qui a été signé sous les auspices de la communauté des États d'Afrique centrale, puisque à l'époque c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui en assurait la présence en exercice, n'a pas fait que des heureux. Mais de la même manière, c'était le prix à payer, me semble-t-il, pour pouvoir garantir à la fois une paix durable, suite évidemment aux événements malheureux de 2022, on le rappelle, le 20 octobre, qui avait d'ailleurs valu à Masra de devoir quitter le territoire. Et c'est vrai que cela a rabattu complètement les cartes politiques et provoqué une forme de recomposition où effectivement Masra a plutôt figure d'opposant radical, alors que les autres opposants, au premier rang desquels Païmi Padaké, sont plutôt dans une dynamique, on va dire, de collaboration.
Rapidement, va-t-il démissionner ou être démis de ses fonctions de chef de gouvernement ?
Je plaide pour la deuxième possibilité, mais tout dépendra aussi de l'attitude de son parti, où il y a aussi des dissensions, parce que il y a une ligne radicale qui prône en fait un recours tout azimut, avec évidemment la rue en soubassement, mais il y a aussi le souvenir douloureux de ce qui s'est passé il y a 2 ans, et on préfère, je pense, aller de l'avant en évitant des pertes en vie humaine.
Dites-moi, le camp Déby a-t-il été pris de court par la popularité de succès Masra, tant dans le nord que dans le sud du Tchad, tel que vu pendant la campagne électorale, c'est-à-dire au-delà de son groupe ethnique? Qu'en pensez-vous?
Le camp Déby, je pense, a eu le malheur de sous-estimer Masra et la dynamique qui s'est mise en place autour de lui, ce qui montre d'ailleurs les résultats fort encourageants qu'il a enregistrés. Je pense que Masra devrait plutôt se focaliser maintenant, me semble-t-il, sur les législatives qui sont annoncées, mais c'est déjà une première étape qui a été franchie. Il appartiendra aux transformateurs de transformer l'essai.
Dany, l'impressionnant déploiement militaire dans les rues de N'Djamena peut-il être perçu comme un acte d'intimidation avec pour but de faire taire les voix discordantes?
C'est ce que dit d'acteurs tchadiens, aussi bien de la société civile que de la classe politique, et des observateurs en N'Djamena. Je crois que j'étais en avril en N'Djamena. C'était déjà visible. Mais en même temps, il faut avouer que la transition qui était censée créer la confiance entre les acteurs politiques et sociaux n'a pas vraiment sur cet aspect colmater les brèches. Il y a beaucoup de divisions au sein de la société tchadienne. C'est là où il y a des inquiétudes à avoir par rapport à la suite du processus où il y a des compromis, des conditions d'organisation, le rôle de l'ange, le rôle de l'État. Et là, on voit encore une présence militaire très exacerbée, avec des conséquences à mort, donc à un certain nombre d'acteurs qui ont trouvé la mort à la proclamation des résultats. Et ce sont des aspects qui font craindre que les jours qui vont sur ce scrutin-là ne contribuent pas véritablement à renforcer la cohésion et la confiance entre acteurs tchadiens.
Et voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Rome, édition du jeudi 16 mai 2024. D'après l'ANJE, comprenez l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamat Idriss Déby Itno, 40 ans, a recueilli 61,03% des voix dès le premier tour de la présidentielle du 6 mai au Tchad, contre 18,53% à Succès Masra, 40 ans également. 8 autres candidats se sont partagés les miettes des suffrages, hormis l'ancien chef du gouvernement, Albert Paimi Padeke, qui a récolté 16,91% des voix. Le taux de participation s'est élevé à 75,89%. Sans plus tarder, deux de vos nombreux commentaires à Facebook. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont écrit du Tchad. Justement, comme Armel Djibohum, Tchad, il n'est pas l'élu du peuple. L'opinion internationale doit réagir en faveur du peuple. Au cas contraire, le monde entier saura que les coups d'État électoraux en Afrique sont entretenus par elle. Et archiduc Théodore, sortant gagnant de cette élection, l'ancien président de la transition, Mahamat Idriss Déby, doit régler les situations urgentes comme le chômage, les prix du carburant, l'électricité et les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et maintenant, nous retrouvons nos invités. Depuis Dakar, le diplomate mauritanien et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Amadou Ould Abdallah, président du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel-Sahara. En direct de Ouagadougou, Dani Aïda, directeur pour l'Afrique centrale au think tank américain NDI, l'Institut national la démocratique pour les affaires internationales, expert en démocratie et développement. Et en ma compagnie, ici, au QG de la VOA Washington, Henri Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales. Dani Aïda, quels sont d'après vous les défis que doit très rapidement relever Mahamat Déby dans sa quête de légitimer sa présidence, alors que beaucoup parlent de résultats falsifiés et truqués, comme on l'a dit dans la première partie tout à l'heure?
Ils sont nombreux, à mon avis. Déjà, il faut un dialogue avec sa classe politique pour ne serait-ce que calmer. Vous savez, il ne peut pas continuer à mettre au centre du jeu politique la cohabitation avec un membre quelconque de l'opposition. Il faut renforcer l'État tchadien, il faut rassurer les Tchadiens aussi par rapport aux questions de développement. Et on a vu un certain nombre de revendications au cours de la transition où, par exemple, les régions du sud du pays ont demandé le fédéralisme, plus d'autonomie dans la gestion des affaires publiques locales. Les prestations, les services sociaux de base, c'est une revendication majeure. Il y a beaucoup plus de courants d'électricité donc dans plusieurs villes du Tchad. Il y a beaucoup de demandes. Donc, au niveau de la gestion publique aussi, les Tchadiens sont demandés de beaucoup de transparence parce que la corruption gangrène la gestion publique. Et là, on se demande si Déby met ça dans ses priorités. En tout cas, quand on suit le Tchadien, les Tchadiens écoutent les partenaires tchadiens, ils ont de très fortes demandes et il y a lieu qu'il y ait des négociations assez ouvertes de façon continue, aussi avec les et dans 15 jours, il faut que le président se montre à la hauteur de ces défis-là et qu'il soit accepté par l'ensemble de la classe politique et de la population tchadienne.
Oui. Mahamat Déby avait été adoubé dès son installation par l'armée en 2021 par la communauté internationale, la France en tête, prompte à condamner les putschistes ailleurs en Afrique. Paris entretient encore un millier de militaires au Tchad, vu comme un pilier de la lutte contre les djihadistes au Sahel, après que les soldats français ont été expulsés du Mali, du Burkina et du Niger, trois pays qui se sont rapprochés de la Russie. Amadou, si la France et d'autres alliés veulent maintenir leur présence au Tchad, devront-ils adapter leur stratégie en réponse aux sentiments anti-occidentaux qui se propagent dans la région?
Merci beaucoup. Je pense que cette question est très pertinente. La présence des Occidentaux ne doit pas être liée à la démagogie interne dans nos pays. Ce n'est pas facile à dire, mais nous faisons face dans tout le Sahel, non seulement au terrorisme, mais à des difficultés énormes. Je pense au Tchad, entouré par la Libye, qui ne va pas très bien, par le Soudan, qui ne va pas très bien. Donc nous devons essayer de trouver des consensus nationaux, consolider le régime au lieu de tout jeter sur l'étranger. Et à cet égard, je pense qu'une présence française très ancienne ou présence américaine peuvent être discutées, mais ne pas servir de démagogie pour déstabiliser nos pays par nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment une occasion pour moi de le dire. Tous les pays ont des alliés, des amis, et nous traversons en particulier le Tchad, entouré de la Libye et du Soudan en crise, des situations extrêmement difficiles, sans parler de Boko Haram et des terroristes qui sont dans le Sahel, Mali, Burkina et Niger.
Alors, les États-Unis ont indiqué il y a 3 semaines qu'ils allaient retirer temporairement une partie de leurs troupes basées au Tchad. Une déclaration faite quelques jours après l'annonce du départ des militaires américains du Niger voisin. Henri, que signifie de tels retraits pour la sécurité dans cette partie de l'Afrique qui viendra combler le vide ?
Alors, il faut rappeler évidemment que le Tchad est un pays pivot dans la lutte contre le terrorisme. La France et les États-Unis ont eu des déboires au Sahel, en l'occurrence au Niger, en tout cas pour les États-Unis, et la France l'a été rappelé au Burkina, au Mali et au Niger. Je pense que nous allons assister à une bascule géopolitique à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il faut se choisir des alliés fiables, il faut rassurer les uns et les autres, il faut surtout, et c'est très important, conforter un certain nombre, je dirais, d'acquis. Alors, la tâche ne sera pas évident, puisqu'il y a 2 fronts sur lesquels Mahamat Idriss Déby devra se battre. Sur le front intérieur, c'est de ramener la confiance. Il pourra le faire, me semble-t-il, par le biais d'un dialogue national, ou alors on va repartir sur des castings avec une cohabitation avec l'opposition. Mais c'est surtout au niveau sécuritaire, parce que vous avez effectivement un pays qui se trouve dans une zone très particulière qui, à l'heure actuelle, est en train de poser de véritables défis sécuritaires à la sous-région.
Alors, le Tchad, dont l'économie dépend fortement d'une modeste production pétrolière, est le 4e pays le moins développé au monde, c'est-à-dire parmi les plus pauvres de la planète. Dany, les Tchadiens peuvent-ils se permettre de rêver à des lendemains meilleurs, brièvement, si vous pouvez ?
Les Tchadiens ont le droit d'espérer, n'est-ce pas, un changement dans la gestion publique et même dans la production de la richesse qui profite au maximum de Tchadiens. Et quand vous les écoutez, ils y croient. Je crois qu'il appartient à la classe politique, toute tendance confondue, de comprendre cette demande-là et offrir une chance de l'entente au Tchad.
Oui. Alors, le voyage en janvier dernier de Mahamat Déby à Moscou, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Vladimir Poutine, a été décrit comme un bluff plutôt qu'une menace de rapprochement avec la Russie. Mais Amedou, pourquoi le Tchad est-il autant convoité par le Kremlin ?
Écoutez, je trouve vraiment ce point extrêmement important et d'actualité. Nous avons, je pense peut-être ma génération, connu la guerre froide et les déboires qu'elle a causés en Guinée et au Mali en particulier. Nous n'en avons pas besoin aujourd'hui dans le Sahel, où la menace est non seulement terroriste, mais ce terrorisme, pourquoi il existe, c'est à cause aussi des gestions parfois tribal ou régionaliste, et nous n'avons pas besoin d'y ajouter cette dose internationale de guerre froide. Pourquoi pas la Russie ? Pourquoi pas la Chine ? Oui. Le Japon ? Mais il y a des relations entretenues sur le plan officiel et privé qui permettent et encouragent d'avoir des relations avec l'Occident, en particulier la France, les États-Unis et l'Europe. Et sur ce plan, le Tchad a la chance d'avoir un homme d'expérience, M. Nadif, le ministre des Affaires étrangères. Il a non seulement une expérience nationale, mais il a été longtemps aux Nations Unies pendant les pays en crise, comme au Mali et au Sénégal.
Alors, Masra, en tout cas, appelle les Tchadiens à ne pas se laisser voler la victoire et à la prouver en se mobilisant pacifiquement, mais fermement. Pour sa part, Mahamat Déby déclare qu'il est désormais le président élu de tous les Tchadiens, promettant de mettre en œuvre ses engagements. Henri, en 2 mots, à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir, les semaines, voire les mois à venir ?
Il n'y a aucun suspense. Le résultat sera validé de toute manière, mais je pense que les transformateurs auront, me semble-t-il, intérêt à se focaliser sur les législatives, où là, pour le coup, une légitimité plus importante pourrait être acquise. parce que Déby a besoin de cette opposition pour légitimer son pouvoir.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Amédou Ould Abdallah, Dani Alida et Henri-Désiré Nzouzi. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.